الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، لقد قامت أمتنا ولم تقعد بعد أن حاول الخبثاء التطاول على نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد بينا بتوفيق الله تبارك وتعالى ما يجب على المسلم فعله في مثل هذه المصائب التي تصيب أمتنا كثيرا في الأواني الأخيرة. لكن هؤلاء الفخورين الغيورين ربما لجهلهم غفلوا عن طائفة تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل نهار من لدن أمد بعيد، جيلا بعد جيل تتوارث هذه الطائفة سباب النبي صلى الله عليه وسلم أبا عن جد، بل أشد من ذلك يا عباد الله. تدعي تلكم الطائفة أنهم من المسلمين، وأن من سواهم كفار حلال الدم والعرض. ليت شعري من هؤلاء، إنهم الروافض، ولجهل كثير من أبناء المسلمين نسميهم لهم باسم يعرفونهم به، ألا وهم الشيعة. نعم عباد الله، الشيعة هم الروافض الذين ليس لهم مع أهل السنة شيء يتفقون عليه، فكيف يقال بأن أهل السنة والشيعة على دين واحد؟ اسمعوا إلى ما يقوله شيخ من شيوخهم وهو إمامهم نعمة الله الجزائري بقوله في كتابه الأنوار النعمانية: إنا لم نجتمع معهم على إله واحد، ولا على نبي واحد، ولا على إمام واحد، وذلك إنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه، وخليفته بعده أبو بكر. ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا، والعياذ بالله. فإذا لم يكن لهم شيء يتفقون عليه مع أهل السنة، فقد كثر التشبه بينهم وبين أهل الكتاب من عدة وجوه. فقد قال الإمام الشعبي رحمه الله: أحذركم من الرافضة، لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما، لم يدخلوا الإسلام رغبة ولا رهبة، ولكن مقتا لأهل الإسلام وباغيا عليهم. قد حرقهم علي بالنار ونفاهم إلى البلدان، منهم عبد الله بن سبأ اليهودي، وآية ذلك أن محنة الرافضة هي محنة اليهود. قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود. وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال. وقالت الرافضة: لا جهاد حتى يخرج المهدي. واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، والرافضة يؤخرون المغرب إلى العشاء. واليهود تزول عن القبلة شيئا والرافضة تحرك رأسها عن القبلة قليلا واليهود حرفوا التوراة والرافضة حرفت القرآن واليهود حرموا أكل الحوت والرافضة حرمت أكل الأرانب واليهود لا يرون المسح على الخفين والرافضة لا تمسح على الخفين واليهود يبغضون جبريل والرافضة تبغض جبريل لأنه أخطأ في الوحي وجعله في محمد ولم يجعله في علي والنصارى يستحلون النساء دون صداقة والرافضة يتزوجون بالمتعة انتهى كلامه رحمه الله ومع هذا عباد الله فإن اليهود والنصارى فضلت على الروافض بخصلة فإنك لو سألت اليهود من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى ولو سألت النصارى عن ذلك لقالوا خير أهل ملتنا حواري عيسى ولو سألت الرافضة عن شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله عباد الله لقد غضب المسلمون لما رأوا هذه الصورة الشنيعة التي أراد بها أصحابها النيل من نبينا صلى الله عليه وسلم فكيف بكم أيها المسلمون لو علمتم أن الروافض يسبون النبي صلى الله عليه وسلم بطرائق مختلفة كل واحدة منها أبشع وأفظع من الأخرى نعم عباد الله انقسم سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام سب وطعن في ذاته الكريمة بطريق مباشر وسب في عرضه من خلال زوجاته وسب في صفاته من خلال أصحابه فهلم بنا أيها الإخوة لنكتشف شيئا من هذه الأقسام فأما الطعن في ذات النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة فإليكم بعض الأمثلة كان شيخ الشيعة العلباء بن ذراع يفضل علي بن أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في كتابه بحار الأنوار إن الذي بعث محمدا هو علي وزعم أن محمدا قد بعثه الله ليدعو إلى علي فدعا إلى نفسه وكان العلباء يذم محمدا صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على العلباء وقال شيخهم وسيدهم علي غروي أحد أكابر شيوخ الحوزة في كتابه كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار إن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يدخل فرجه النار لأنه وطئ بعض المشركات وكان يقصد بكلامه هذا عائشة وحفصة رضي الله عنهما ولعنة الله عليه وتقول الشيعة الاثني عشرية وهذا موجود في كتاب أصول الكافر الكلياني إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد مكث أياما ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها وقال نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية إن عليا أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه لم يعط الشجاعة أصلا وقال المجلسي في كتابه بحار الأنوار إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقبل عرض وجنة فاطمة رضي الله عنها أي حتى لا يقبل بين ثدييها ولا حول ولا قوة إلا بالله وهم القائلون الشيعة الروافض ليس للنبي من البنات إلا فاطمة وأن رقية وأم كلثوم وزينب إنما هن ربائبه ويقول شيخ من شيوخهم وهو السيد جابر أغار والكلام مسجل وموجود على الشبكة العنكبوتية يقول هذا الخبيث لعنة الله عليه صلى الله عليك يا رسول الله أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد أنت تتحمل تبعات هذه الأمة وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة هلا أوصيت يا رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عباد الله إذا لم يرضى المسلمون بهذه الصور ولأجلها خرجوا في الشوارع وفعلوا ما فعلوا، فما عساهم فاعلون بعد أن سمعوا هذا. واعلموا أن ما سمعتم قطرة من بحر، وأنه لا يسع بنا المقام حتى نسرد عليكم كل ما عثرنا عليه. فإذا كان الكافر يسب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا للأسف شيء معهود، ولكن أن يسبه من ينتسب إلى القبلة ومع هذا نظل ساكتين، فهذا والله عين الحماقة. أليس الشخص يستعظم من القريب ما لا يستعظمه من الغريب؟ هذا إن كنا نعد الروافض من الأقرباء، ووالله ليسوا عندنا كذلك. ثم عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الروافض يكثرون الطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهن الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. وقد جاء في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من غزوة ذات السلاسل، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال إنما أقول لك من الرجال. قال أبوها. والأحاديث الصحيحة التي جاءت في بيان فضل عائشة رضي الله عنها أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى، لكن الروافض لا تعبأ بهذه الأحاديث، فعندهم البخاري ومسلم والسنن الأربعة خرافة وأساطير، ولهم كتاب اسمه الكافي للكلياني محشوم بالكذب والأساطير والزندقة. إن الشيعة أجهل الناس بالأحاديث والسنن والروايات، فلا تجد في كلامهم قال رسول الله، وإنما تسمع فقط قال علي، قال جعفر، قال الحسين، وأكثر مروياتهم كذب على آل البيت، وخاصة جعفر الصادق رحمه الله. اسمعوا عباد الله كيف طعن الروافض الشيعة لعنهم الله في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حبيبته وقرة عينه عائشة رضي الله عنها. قال القمي في تفسيره لسورة غافر بأن عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر الفاروق كافرتان والعياذ بالله. وقال العياشي في تفسيره أن أحد أبواب النار السبعة لعائشة رضي الله عنها وأنها زانية. وقال المجلسي في كتاب حق اليقين أن مهديهم المنتظر سوف يحييها ويقيم عليها الحد. أعوذ بالله من خزعبلات الحمقاء. ويقول شيوخ الشيعة كما ورد في كتاب فروع الكافي أن من لعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية بن أبي سفيان وعائشة وحفصة بعد كل صلاة فقد تقرب إلى الله بأفضل القربات. وللشيعة دعاء في الصلاة ذكره المجلسي في كتابه الأنوار، وهو: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما. والصنمان هما أبو بكر وعمر، وابنتاهما هما عائشة وحفصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما طعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم من خلال صحابته رضي الله عنهم، فلا تسأل عن عدم النجوم في السماء. لا يخفى على أحد من المسلمين أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء، فقد قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة الآية. فمن طعن في الصحابة رضي الله عنهم فقد طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد النهي عن سب الصحابة رضي الله عنهم في الأحاديث الصحيحة الكثيرة، كما في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وقد قال العلماء رحمهم الله أن سب الصحابة جميعا كفر وردة، أما الروافض فلا أحسن عندهم في دينهم من الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الكافي للكلياني إن جميع الصحابة كفروا بعد رسول الله إلا ثلاثة. وقال الخميني الضال لعنه الله في كتابه الحكومة الإسلامية إن أبا بكر وعمر فاسقان أحمقان، ويدعون أن عثمان كان منافقا وأبا هريرة فاسقا وعائشة زانية والعياذ بالله. ويقول شيخهم نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية ارتد الناس كلهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة: سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر، وهذا مما لا إشكال فيه. ويعتقد شيوخ الشيعة كما في كتاب الصراط المستقيم بأن أبا بكر خدم أكثر عمره للأوثان عابدا للأصنام، وأن إيمانه كإيمان اليهود والنصارى، وأنه كان يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه ويسجد له. ويعتقد شيوخ الشيعة عليهم لعنة الله كما في كتاب الأنوار النعمانية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مخنثا وبه داء لا يداويه إلا ماء الرجال، أعوذ بالله أعوذ بالله من أهواء أهل الضلال. وتزعم الشيعة كما في تفسير العياشي لسورة إبراهيم أن كفر عمر بن الخطاب مساو لكفر إبليس إن لم يكن أشد منه، بل قالت الشيعة إن إبليس يتعجب من شدة مضاعفة العذاب على عمر، فيقول إبليس: من هذا الذي أضعف الله له العذاب وأنا أغويت هذا الخلق جميعا؟ ويقول شيخ الشيعة المجلسي في كتابه جلاء العيون: لا مجال لعاقل أن يشك في كفر عمر، فلعنة الله ورسوله عليه وعلى كل من اعتبره مسلما وعلى كل من يكف عن لعنه. وأخيرا، اعلموا رحمكم الله أن شيوخ الشيعة يحتفلون بيوم مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويجعلونه عيدا، بل إنهم يقدسون أبا لؤلؤة المجوسي ويصفونه بالشجاع لأنه قتل عمر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، أيرضى المسلم العاقل أن يقول هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وصحابته؟ من يدعي الانتماء إلى الإسلام كيف يخرج في الشارع الفاسق من أمتنا بعد أن سمع الكفار يسخرون بنبينا صلى الله عليه وسلم، ويبقى جامدا مع علمه بما تقوله الروافض؟ فيجب على المسلمين أن يتفقهوا في دينهم حتى يعرفوا ما يجب اعتقاده في ربهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وصحابته، وحتى يعرفوا عظمة الإثم الذي يقترفه من يخالف المعتقد الصحيح الذي لا يجوز العدول عنه، وحتى يعرفوا من هو عدوهم الحقيقي. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، mes très chers frères, notre communauté s'est levée pour montrer son mécontentement et sa colère à l'égard de ces charognes qui ont osé tenter d'insulter notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons dit clairement ce qu'il était obligatoire pour le musulman de faire dans ce genre d'événement catastrophique qui touche beaucoup notre communauté dernièrement, malheureusement. Cependant, que ces musulmans fiers de leur prophète et jaloux pour leur prophète sachent qu'il
personne qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam jour et nuit depuis des siècles. Génération après génération, ce groupe-là hérite les uns des autres l'insulte envers le prophète alayhi salatu wa sallam. Et la plupart des musulmans ignorent cela, car malheureusement, ils ne prêtent pas attention suffisamment à l'étude de leur religion. Que diriez-vous, mes frères, si vous saviez que ce groupe qui a insulté le prophète alayhi salatu wa sallam depuis des siècles, génération après génération, se prétendent musulmans? Plus que cela encore, ils excommunient toute personne qui ne voit pas les choses comme eux. Tout musulman qui n'est pas comme eux dans la croyance est pour eux quelqu'un dont le sang, les biens et l'honneur est licite. De qui s'agit-il, mes frères? Il s'agit des Rawafid. Qui sont les Rawafid? Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de musulmans ignorent qui sont les Rawafid. Cependant, ils les connaissent mieux sous le nom des chiites. Les chiites sont les Rawafid. Les chiites sont les Rawafid. Tu te souviens quand tu étais à l'école, ici en France, si je me souviens, c'était en cinquième, lorsqu'ils nous apprenaient les trois grandes religions monothéistes. Lorsqu'il parlait des musulmans, il disait que les musulmans se divisent en deux catégories, les sunnites et les chiites. Et pour eux, tous ces deux grandes parties forment un seul et même tout et ensemble qui est la communauté musulmane. Mais sachez, mes frères, que les chiites n'ont absolument rien à voir avec nous, les gens et les partisans de la sunna, de la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'Allah nous fasse vivre et mourir dessus. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec nous? Écoutez-les eux-mêmes se désavouer de nous et se dissocier de nous. Vous savez, il y a certains musulmans laxistes, très laxistes, qui nous montrent du doigt, nous, les salafis, qui disent « Vous divisez la communauté. » La wallah, c'est eux qui se divisent tout seuls. On ne peut que se ranger du côté de celui qui a la vérité, même si tout le monde nous tourne le dos. Mais écoutez-les eux comment ils disent. Il y en a un de leurs savants qui s'appelle Ni'matullah al-Jazairi. Il a un livre qui s'appelle Al-Anwar al-Mu'manila. Il a dit quoi? Il a dit, nous ne nous réunissons pas avec eux. Et tellement ils nous dénigrent qu'ils ne veulent même pas nous nommer. Nous ne nous réunissons pas avec eux sur le même Seigneur, sur le même prophète et sur le même calife. Écoutez bien ce qu'ils disent. Ils disent pourquoi? Un Seigneur dont le prophète est Mohammed, dont le calife est Abu Bakr, ne peut pas être notre Seigneur à nous, et ne peut pas être notre prophète à nous, et encore moins notre calife. Donc pour eux, Allah tabaraka wa ta'ala, si il a envoyé le prophète Muhammad et qu'il a désigné Abu Bakr comme calife, ben ce Seigneur-là ne peut pas être leur Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'accepte pas qu'Abu Bakr soit le calife et successeur du prophète alayhi salatu wassalam. Et cette parole-là, ça vient de chez eux. Ah, je n'ai pas le nom de l'auteur, Ni'matullah al-Jazairi, et le livre s'appelle Al-Anwar al-Nu'maniya. J'ai les références pour ceux qui les veulent, j'ai pas voulu trop étaler la khutbah en vous citant toutes les références. Maintenant qu'on a vu qu'il n'y avait rien à voir entre les gens de la tradition prophétique et les chiites, est-ce que vous pensez qu'ils ont à voir avec quelqu'un d'autre? Je vais vous répondre oui. Sachez qu'ils ont énormément de points communs avec les juifs et les chrétiens. Al-Sha'bi rahimahullah, un grand imam parmi les deux prédécesseurs, a dit: je vous mets en garde contre les Rawafid, donc contre les chiites. S'ils étaient des animaux, ils seraient des ânes. Et s'ils étaient des oiseaux, ils seraient des vautours. Ils ne sont pas rentrés dans l'islam dans le but de chercher la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala ou de se préserver de son châtiment. Non, ils sont rentrés dans l'islam car ils détestaient les musulmans et car ils voulaient les agresser et les exterminer. Ali radiallahu anhu les a fait brûler par le feu et les a chassés et fait exiler. Parmi eux, Abdullah ibn Saba, le juif d'Allah le maudisse. Et la preuve de leur épreuve est la même preuve que celle avec laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a éprouvé les juifs. Les juifs ont dit, la royauté ne peut être que dans la famille de Daoud. Et les chiites ont dit, la royauté ne peut être que dans les enfants de Ali. Les juifs ont dit, il n'y a pas de guerre sainte tant que l'antéchrist ne sortira pas. Et les chiites ont dit, il n'y a pas de guerre sainte tant tant que le Mahdi ne sortira pas. Les juifs retardent la prière du soir jusqu'à ce que les étoiles soient visibles. Quant aux chiites, ils retardent la prière du coucher du soleil jusqu'à celle de l'Isha. Les juifs ne suivent pas la même qibla que nous. Quant aux chiites, ils s'en écartent un petit peu de leur tête. Les juifs ont transformé et altéré la Torah, alors que les chiites ont, eux, altéré le Coran. Les juifs ont interdit la consommation du poisson, alors que les chiites ont interdit la consommation de la viande du lapin. Les juifs n'essuient pas sur leurs bottines et leurs chaussons, et les chiites, eux aussi, ne le font pas. Les juifs détestent Gabriel, l'archange Gabriel, et les chiites aussi détestent l'archange Gabriel. Pourquoi ? Car d'après eux, Gabriel s'est trompé dans la révélation qui lui a été confiée par Allah, tabaraka wa ta'ala. Il l'a transmise à Muhammad, alors qu'il aurait dû la transmettre à Ali. Les chrétiens, eux, s'autorisent les femmes sans leur donner de dot, alors que les chiites, eux, s'autorisent les femmes dans ce qu'on appelle le mariage de jouissance, un mariage temporaire. Voici, mes frères, les points communs qu'il y a entre les juifs, les chrétiens et les chiites. Mais sachez avec tout cela que les juifs et les chrétiens sont malgré tout meilleurs qu'eux dans un point. Quel est-il ? Si tu prends n'importe quel juif et tu lui poses la question, qui sont les meilleurs dans votre communauté ? Ils répondront sans hésiter, les compagnons de Moussa. Et si tu demandes à un chrétien, qui sont les meilleurs dans votre communauté ? Ils répondront sans hésiter, ce sont les apôtres de Issa. Mais si tu demandes à un chiite, qui sont les pires dans votre communauté ? Ils répondront sans hésiter, les compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, on a vu les musulmans se mettre en colère lorsqu'ils ont vu ces horribles caricatures qui ont été faites par les mains de personnes vives et méprisables dans le but d'insulter le prophète alayhi salatu wassalam. Que devriez-vous faire, ô musulmans, si seulement vous saviez comment les chiites insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam de différentes façons? Chacune d'entre elles est pire que la précédente. Oui, mes frères, l'insulte des chiites envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam se divise en trois catégories. Une insulte directe dans sa noble personne alayhi salatu wa sallam. Une insulte à travers ses épouses dans son honneur. Et une insulte à travers ses qualités, à travers dans ses compagnons radiallahu anhum. Venez voir un petit peu avec moi ce qu'ils disent dans leur livre. Et wallahi, sachez que mes lettres se gercent et souffrent de douleur à devoir lire ces choses-là, ainsi que mes oreilles. Mais il faut que vous sachiez ce qui se dit, et sachez que ce n'est malgré tout qu'une goutte dans un océan par rapport à la quantité incalculable et inqualifiable que l'on trouve dans leurs ouvrages, qui sont remplis d'insultes envers le prophète, alayhi salatu wassalam, ses épouses et ses compagnons. Regardez comment ils parlent du prophète, alayhi salatu wassalam. Un de leurs chiites qui s'appelle Al-Alba ibn Dira'a, alayhi l'anatullah, préfère Ali au prophète alayhi salatu wassalam. Il a un livre qui se nomme Bihar al-Anwar, dans lequel il dit que celui qui a envoyé Muhammad, ben c'est Ali. Il a dit aussi que Muhammad a été envoyé par Allah pour appeler les gens vers Ali, mais il n'a pas écouté, il a appelé les gens vers lui-même, wallahu musta'an. Et il a aussi trouvé l'audace d'insulter le prophète alayhi salatu wassalam et d'évoquer ses défauts. Un autre de leurs chiites qui s'appelle Ali Arwi a écrit dans un livre qui se nomme Kashful Asrar wa Tabri'atul A'immatul Athar. Il a dit, écoutez celle-là, accrochez-vous et préparez-vous. Il a dit, alayhi l'anatullah, il est obligatoire pour le prophète, alayhi salatu wassalam, d'insérer ses parties génitales en enfer. Pourquoi ? Car il a copulé avec certaines associatrices. De qui parlait-il ? De Aïcha et de Hafsa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Vous trouvez dans le livre Usulul Kafi de Al-Kilyani alayhi anatullah. Il a dit quoi ? Écoutez, si après cela, on peut prétendre que ces gens ont une raison avec laquelle ils se distinguent des animaux, il faut revoir tous ces principes. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est né, est resté plusieurs jours sans trouver de lait à boire en tant que nourrisson. Alors Abu Talib l'a fait boire de sa propre poitrine. Et Allah Ta'ala a mis du lait dans sa poitrine afin que Muhammad, enfant, puisse allaiter son oncle. D'ailleurs, ils ont dit Abu Talib, alors que à ce moment-là, c'était Abdul Muttalib, son grand-père, qui s'en est occupé. Donc là, on comprend de cette parole-là que Abu Talib n'a trouvé personne pour allaiter le prophète alayhi salatu wasalam qui venait de naître, alors il a allaité lui-même, sans qu'il n'ait de lait dans sa poitrine. Bien entendu, c'est un homme. Alors Allah lui a donné du lait pour qu'il puisse allaiter le prophète alayhi salatu wasalam jusqu'à ce qu'il trouve Halima al-Sa'diya qui s'occupa de l'allaiter par la suite. Ni'matullahi al-Jazairi alayhi la'natullah a dit: Ali radiallahu anhu est plus courageux que le prophète alayhi salatu wasalam. Au contraire, le prophète n'a même pas eu de courage pour qu'on puisse faire la comparaison. Al-Majlisi l'a dit anhu Allah. Il a dit le prophète alayhi salatu wasalam n'allait pas dormir tant qu'il n'avait pas embrassé Fatima entre ses deux seins, wal'iyadu billah. Ils ont dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wasalam n'avait aucune fille en dehors de Fatima. Quant à Umur Kulthum, Ruqayya et Zaynab, elles étaient les filles de ces femmes. Ils ont dit aussi, wal'iyadu billah, et ça c'est, j'ai trouvé sur internet, dans YouTube, vous pouvez même le trouver, l'écouter avec vos propres oreilles si vous n'avez pas envie de vomir. Il a dit quoi, ce hadith? Il a dit qu'Allah prie sur toi, ô messager d'Allah, tu as fait une énorme erreur. Tu es sorti de ce bas monde sans nous dire vers qui il fallait revenir après toi. C'est toi qui devras assumer les catastrophes qu'ont connues ta communauté. C'est toi qui devras assumer cette responsabilité, ainsi que la guerre dans laquelle tu as plongé la communauté, et dans le fait que tu les as perdus, et dans le fait que tu étais la cause pour leur épreuve et tentation. Si seulement tu nous avais dit, au messager d'Allah, qu'Allah coupe les langues des gens qui n'ont aucune pudeur. Si mes frères, les musulmans n'ont pas accepté ces images qu'ils ont vues dans les journaux précédents, et à cause de cela on les a vus sortir dans les rues et faire ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils vont faire après avoir entendu ce qu'on vient d'entendre? Et sachez que ce qu'on vient d'entendre, mes frères, n'est qu'une goutte dans un vaste océan. Et qu'on n'a pas le temps de tout vous dire, et on n'a pas non plus la force de tout vous lire. Si le mécréant insulte le prophète alayhi salatu wassalam, malheureusement c'est une chose qui est connue depuis longtemps. Mais que quelqu'un qui prétend être musulman le fasse, et qu'en même temps nous restions silencieux, comme si de rien n'était, ça par Allah, c'est ça vraiment la folie. N'est-ce pas que quelqu'un a du mal à accepter de la part d'un proche ce qu'il peut accepter de la part de quelqu'un qui est lointain? Ça, c'est dans le cas où on considérerait les chiites comme étant proches de nous. Et par Allah, ils ne sont pas proches de nous. Mais frère, sachez qu'Allah vous a brisé les cordes, que les chiites multiplient les insultes et les attaques à l'égard des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, et en particulier à l'égard de Aïcha, la véridique fille du véridique, alayhi ma ridwanullah. Alors que Amr ibn al-As, radiallahu anhu, a interrogé le prophète, alayhi salatu wassalam, en lui disant: Ô messager d'Allah, qui est celui que tu aimes le plus parmi les gens? Il a répondu, alayhi salatu wassalam, directement, Aïcha. Alors Amr radiallahu anhu lui dit: je faisais référence aux hommes. Alors le prophète lui répond, alayhi salatu wassalam, son père. Il n'a pas dit Abu Bakr en le nommant directement, il a dit son père en affiliant Abu Bakr à sa fille. C'est comme si deux fois de ceux qui disaient Aïcha est celle que je préfère le plus, et Aïcha et son père sont ceux que je préfère le plus, pour appuyer à quel point il aimait Aïcha radiallahu anha. Et les textes authentiques sont tellement nombreux qu'il est impossible de tous les compter, et sont tellement célèbres qu'on ne peut pas leur rajouter en renommée. Cependant, les chiites ne prêtent pas attention à ces textes. Pour eux, Al-Bukhari et Muslim et les livres des traditions prophétiques ne sont que des mensonges et des inventions. Ils ont un livre qui s'appelle Al-Kafi, qui a pour auteur Al-Kilyani, qui est rempli de mensonges et d'impuretés et de mécréances. Les chiites sont les gens qui ignorent le plus les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Tu ne trouveras pas dans leur livre qala rasulullah, mais tu trouveras plutôt Ali a dit, Ja'far a dit, Al-Hussein a dit. Et la plupart de ce qu'on rapporte dans leurs livres sont des mensonges proférés à l'égard de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, et en particulier à l'égard de Ja'far as-Sadiq alayhi rahmatullah. Écoutez mes frères, comment les chiites insultent les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, et à travers cela ils insultent son honneur. Comment est-ce que tu réagirais toi si on écrivait des livres entiers dans lesquels on mentirait sur ton épouse en la traitant de fornicatrice, de prostituée, de mauvaise? Est-ce que tu ne te sentirais pas insulté par cela? Eh bien sachez mes frères que le but des chiites en insultant Aïcha et Hafsa et les autres, radiallahu anhum, n'est pas d'insulter les femmes du prophète en elles-mêmes, mais d'atteindre le prophète, alayhi salatu wassalam, indirectement. Al-Qimmi, ce prétendu moufassir chez eux, a un livre dans lequel il interprète le Coran. Et lorsqu'il interprète la sourate Ghafir, le pardonneur, il prétend que Aïcha et Hafsa sont toutes les deux des mécréants. Et Al-Iyashi, lui aussi, un autre de leurs exégètes, prétend qu'il y a une des portes de l'enfer qui est spécialement dédiée et réservée à Aïcha. Et il dit explicitement que Aïcha était une fornicatrice, wal-iyadu billah. Al-Majlisi a dit que leur Mahdi, qu'il attend tant, lorsqu'il reviendra, il ressuscitera Aïcha pour lui appliquer la peine de l'adultère, wal-iyadu billah. Les savants des chiites prétendent, et vous trouvez ça dans le livre Al-Furu' al-Kafi, que celui qui maudit Abu Bakr et Omar et Uthman et Muawiyah ibn Abi Sufyan, ainsi que Aïcha et Hafsa, après chaque prière, c'est certes rapprocher d'Allah de la meilleure des façons. Les Shia ont une invocation qui dit après chaque prière. Quelle est-elle? Ô Allah, maudit les statues de Quraysh, ainsi que leurs tarouts, ainsi que leurs filles. Et il faisait référence dans cela à Abu Bakr et Omar, ainsi qu'à Aïcha et Hafsa, alayhim la'natu, alayhim ridwanullah. Et wallahi, mes frères, si vous voulez revenir au livre des chiites à ce sujet-là, vous ne trouverez pas une page, vous ne tournerez pas une page sans que vous ne trouverez dedans une insulte à l'égard d'Abu Bakr et de Omar, radiallahu anhuma, ainsi que de Aïcha et de Hafsa, radiallahu anhuma, wa la hawla wa la quwwata illa billah. D'ailleurs, si jamais tu voulais compter le nombre d'insultes que tu trouves à l'égard d'Abu Bakr et de Omar dans leur livre, eh bien, compte les étoiles, ça te prendra moins de temps. Aucun des musulmans n'ignore à quel point les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des hommes purs et pieux à qui Allah tabaraka wa ta'ala fait les éloges dans son livre. Allah dans le Coran a dit Muhammad le messager d'Allah ainsi que ceux qui sont avec lui, ils sont durs envers les mécréants et miséricordieux les uns envers les autres. Tu les vois en inclinaison et en prosternation, ils recherchent l'agrément de leur Seigneur ainsi que sa satisfaction. Les traces de la prosternation sont visibles dans leur visage. C'est ainsi qu'ils furent qualifiés dans la Torah. Celui qui a insulté le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ce que quiconque ose insulter les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Il a dit alayhi salatu wa sallam, n'insultez pas mes compagnons, n'insultez pas mes compagnons par celui dont mon âme est dans sa main. Si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il n'aurait pas atteint l'équivalent de la moitié de ce que l'un de mes compagnons donne en aumône entre ses deux mains. Et les savants sont unanimes pour dire que celui qui a insulté tous les compagnons radiallahu anhum a certes mécru et est sorti de l'islam. Quant aux chiites, il n'y a rien de meilleur dans leur religion que d'insulter les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Kilyani dit dans son livre Al-Kafi, la totalité des compagnons du prophète ont mécru après que le prophète ne meurt, sauf trois d'entre eux. Et Al-Khumayni, Al-Dal, l'imam de l'égarement, a dit dans son livre Al-Hukumatu l'Islamiyya, Abu Bakr et Omar sont deux pervers et deux fous. Et ils prétendent que Uthman était un hypocrite, qu'Abu Huraira était un pervers et que Aïcha était une fornicatrice. Leur shir, Ni'matullah al-Jazairi, a dit, tous les hommes ont apostasié après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, sauf quatre. Salman al-Farisi, Abu Dhar al-Ghifari, Al-Miqdad ibn al-Aswad et Ammar ibn Yasir. Et là-dessus, pour nous, il n'y a pas de problème. Qu'il n'y a personne en dehors de ces quatre-là qui sont musulmans. Écoutez ce qu'ils disent. Ils disent qu'Abu Bakr radiallahu anhu a passé sa vie au service des statues en les adorant. Ils disent que la foi de Abu Bakr est comme celle des juifs et des chrétiens. Ils disent que quand Abu Bakr priait derrière le prophète alayhi salatu wassalam, il avait une statue accrochée autour de son cou pour laquelle il se prosternait wal-iyadu billah. Ils ont osé dire wal-iyadu billah que Omar radiallahu anhu était un homme efféminé et qu'il avait une maladie qui ne pouvait être guéri que par la semence des hommes, wal-iyadu billah. Les chiites prétendent, comme dit Al-Iyashi dans Tafsir sur Surat Ibrahim, que la mécréance de Omar ibn Khattab est égale à celle de Iblis, pour ne pas dire qu'elle est pire que celle-ci. Les Shia ont dit, Iblis lui-même s'étonne du châtiment terrible qui va goûter Omar. Et il se dit, qui est celui à qui Allah a multiplié le châtiment, alors que moi, j'ai égaré toute la création et je n'ai pas comme lui. Al-Majlisi, la'anahullah, a dit, il n'y a pas de doute pour celui qui est de l'intelligence que Omar est un mécréant, qu'Allah et son messager le maudisse, ainsi que tous ceux qui croient que Omar est un musulman et toute personne qui ne le maudit pas. Hein, quand ils nous disent, on sépare, on divise les musulmans, mais ils ne savent pas eux que pour les chiites, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence chez les chiites que Ahlus Sunna sont des koufars. Et si on avait eu le temps, je vous aurais dit ce qu'ils pensent de nous, clairement. Et sachez, mes frères, que les chiites ont fait du jour de la mort de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, un jour de fête. Et qu'ils ont sanctifié, hein, l'assassin de Omar qui a voulu l'Oua. Al-Majusi, la'anahullah, et il le surnomme le brave, le courageux, le vaillant. Pourquoi? Parce qu'il a tué Omar, radiallahu anhu. Mes frères, Allah, la liste est encore longue, mais le temps est court. Et je pense que j'en ai suffisamment dit pour ce que vos oreilles peuvent supporter. Sachez, mes frères, est-ce que le musulman peut maintenant être satisfait de savoir qu'on dit cela dans la personne du prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que ses épouses et ses compagnons, des personnes qui osent prétendre qu'ils font partie des musulmans? Quand on voit des fois à la télé, lorsque les musulmans, ils sortent pour faire leur manifestation, qui n'ont aucune origine dans le Coran et la Sunna, on voit parmi eux tout et n'importe quoi. On voit des gens qui ont des traces de pratiques religieuses et d'autres qui n'en ont pas une seule. Tout le monde se mélangeait. Tu vois même des gens, j'ai rigolé en voyant, enfin, comme on dit, d'un rire jaune, en voyant certaines scènes aux informations, des gens qui ont dans leur main gauche le drapeau, on défend le prophète, et dans l'autre, une cigarette, il est en train de fumer. Pas la hawla wa la quwwata illa billah. Quoi qu'il en soit, on voit que tous les musulmans sortent dans la rue, n'importe comment. Dans quel but? Dans le but de défendre le prophète, alayhi salatu wassalam. Et pourtant, il y a parmi nous des chiites qui sont là, qui s'implantent petit, un peu partout. Ils ont essayé de s'implanter dans le Maghreb, mais grâce à Allah, au Maroc, ils furent chassés. Et la plupart des musulmans, alhamdulillah, conservent leur méfiance par rapport à eux. Walakin, il suffit juste qu'ils baissent leur garde pour qu'ils tombent à nouveau dans leur piège. Faites attention, ils se sont aussi implantés en France. Et ils ont des mosquées. Il y en a une à Pontoncombo, pas très loin d'ici. Et ils ont des centres, comme le centre Az-Zahra, qui est pas loin de la frontière belge. Ils sont là, ils sont présents. Ils ont des centres, ouvrent des écoles. Et ils appellent les gens vers eux. Et ils font des cours gratuits, ou bien pas chers. Et ils ont des paroles mielleuses et suaves et sucrées et douces aux oreilles des gens qui sont niais et naïfs. Alors ils courent vers eux, ils disent, mais c'est des musulmans. Ils disent, la ilaha illallah, comme nous. Ya subhanallah. Combien de fois faudra-t-il vous répéter que la ilaha illallah est une clé qui a des dents, et cette clé sans dents, elle ne sert à rien, surtout dans la bouche des chiites qui maudissent Abu Bakr et Omar, ainsi que Aïcha et Hafsa, radiallahu anhuma. Le musulman n'a pas le droit de rester insensible à ces insultes qu'il entend de ses oreilles de la part de personnes qui osent prétendre être musulmans. Les koufars insultent le prophète, alayhi salatu wassalam. As de son vivant, les koufars l'insultaient, et Allah tabaraka wa ta'ala s'est chargé de le défendre. Et qu'est-ce qu'on doit dire alors de ces gens-là qui osent prétendre être musulmans et osent dire Allahu Akbar comme toi et moi, alors que si vous saviez les grandes catastrophes qui sortent de leur bouche qu'on ne peut pas oser dire sur le minbar, notamment le jour du vendredi. Si tu aimes le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que ses épouses et ses compagnons radiallahu anhum, tu ne peux pas aimer les chiites. Ce ne sont pas tes frères, ce sont tes ennemis. Par Allah, ils sont pires encore que la crainte que l'on peut avoir des autres ennemis de l'islam. Wallah, ces gens-là n'attendent que le bon moment pour s'attaquer aux Ahlus Sunnah et pour les éradiquer, les évincer, les exterminer. Il est obligatoire pour les musulmans d'être clairvoyants et de voir d'un œil averti et de s'instruire surtout dans sa religion et dans sa croyance. Comment doit-il croire en Allah? Comment doit-il croire au prophète alayhi salatu wassalam? Quel comportement doit-il avoir à l'égard des épouses du prophète alayhi salatu wassalam et de ceux que nous radiallahu anhum ajma'in? Il est obligatoire de revenir vers sa religion et de s'inscrire dans sa religion, et d'ouvrir les ouvrages qui nous apprennent notre croyance. et de savoir la gravité du péché de celui qui ose s'écarter de cette croyance pure, et de savoir enfin qui est vraiment ton ennemi. Qui est vraiment ton ennemi? Qui est vraiment ton ennemi? Tu es là comme ça, tu marches et pour toi tout le monde est beau, tout le monde est gentil, soit disant parce qu'il a, lui aussi il était faire une umrah ou un hajj. Mais si tu savais qu'est-ce qu'il donne dans sa umrah ou dans son hajj, si tu le savais, wallah, j'ai entendu un de mes oreilles à la Mecque, devant la Kaaba, en plein soujoud, dire Ya Ali, Ya Fatima, en plein soujoud, crier Ya Ali, Ya Fatima, à côté de moi en soujoud. J'en ai vu un groupe aussi au Masjid al-Haram à Mecca. Un d'entre eux s'assoit sur une chaise et il se met à chanter des chants dans lesquels il pleure sur Al-Hussein, alors que ce sont eux qui l'ont tué. Il pleure sur Al-Hussein et il chante des chants en perse, alors qu'ils ne sont, ils sont incapables de verser une larme lorsqu'il lit le Coran. Mais par contre, lorsqu'il parle de Al-Hussein, cette victime dont leur main est salie de son sang, ils se mettent à pleurer et à chanter et à vociférer. Wala hawla wala quwwata illa billah. Apprends ta religion et instruis-toi, notamment dans le domaine de la croyance, pour être sur tes gardes et pour savoir vraiment quel danger devant quel danger tu t'exposes et qui réellement sont tes ennemis. Allah dit dans le Coran, oh vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et vos ennemis comme alliés en leur exprimant de l'affection alors qu'ils ont mécru dans la vérité qui vous est parvenue. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في ديننا. اللهم فقهنا في ديننا وعقيدتنا. اللهم فقهنا في عقيدتنا وديننا يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب زوجاته ونحب صحابته ونحب من يحبهم. اللهم لعن من يلعنهم. اللهم لعن من يلعنهم. ونشهدك يا الله أننا نبغض من يبغضهم ونلعن من يلعنهم. اللهم احشرنا مع أبي بكر وعمر وحفصة وعلي واحشرهم مع الشياطين الإنس والجن كلهم يا رب العالمين. اللهم فرق بيننا وبينهم في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يا رب العباد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. وقد جاءني أحد الإخوة طالبا أن ندعو الله تبارك وتعالى له لأنه ولد له ولد في هذا الصباح، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في الموهوب له، وأن يجعله من الشاكرين للواهب، وأن يبلغ شده، وأن يرزقه بره. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم اجعله مباركا أينما كان، وأوصه بالصلاة والزكاة ما دام حيا، واجعله برا لوالديه، ولا تجعله جبارا شقيا، وسلمه من الآفات يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وهو وجميع مولودي المسلمين الجدد. ونسأله عز وجل أن يحفظ شيوخنا وعجائزنا، وأن يحفظ شبابنا وشباتنا، وأن يحفظنا جميعا من كيد الكائدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله.